Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle absolument unique. Je ne vous ai jamais rien raconté de pareil. L'affaire de la tuerie de Flavin dans l'Aveyron en février de l'an 2000. Une affaire qui mêle mysticisme, magie noire et folie, hein. Sans doute folie. Je vais essayer de vous en dire le moins possible pour l'instant et vous laisser découvrir l'histoire au fur et à mesure. Sachez que pour le débrief tout à l'heure, je serai avec le colonel de gendarmerie Géry Plane, qui a dirigé cette enquête et qui est aujourd'hui rangé des voitures, comme on dit. Bonjour colonel.
Bonjour.
Et à tout à l'heure. Voici donc la tuerie de Flavin, une histoire écrite avec Thomas Oudoir, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ce qui marque au début de cette histoire, c'est la date du meurtre, le 14 février 2000. 14 février, ça vous dit quelque chose? C'est la Saint-Valentin. C'est idiot, hein, parce que l'assassin n'a pas choisi de tuer parce que c'était la Saint-Valentin. C'est le hasard. Mais n'empêche que le jour de la Saint-Valentin 2000, à Flavin, dans l'Aveyron, une belle histoire d'amour s'est arrêtée d'un coup. Ce jour-là, Patrice, le mari, 43 ans, frigoriste de métier, rentre chez lui pour déjeuner. Et pour sa chérie, sa femme depuis 2 ans maintenant, Manuela, il s'arrête acheter une orchidée chez le fleuriste. Une belle orchidée. Sur la route, il essaye de l'appeler.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Il rappelle, elle ne répond pas. Bon, un peu avant midi, il arrive chez lui, il entre avec son pot de fleurs à la main, avec les yeux d'un amoureux. « Chérie, je suis rentré. Chérie, chérie. » Personne au rez-de-chaussée, pas un bruit. Alors Patrice monte à l'étage, il a toujours son orchidée à la main. « Chérie. » Pousse la porte de leur chambre et il la trouve morte, qui baigne dans son sang. Et à côté d'elle, sa petite Morgane, 12 ans, en pyjama, morte elle aussi, dans une mare de sang. Et la Patrice se dit, mon Dieu, mon fils, ils ont un petit garçon de 5 semaines. Alors il court vers sa chambre, le berceau est vide. Il descend l'escalier 4 à 4, il se précipite dans la rue, il hurle. On a tué ma famille! On a tué ma famille! On a volé mon bébé! On a volé mon bébé! Il va au restaurant du coin, c'est là que Manuela travaille, à la plonge. Il entre. On a tué mon bébé! Le restaurateur, Monsieur Bernard, ne comprend pas vraiment, mais il comprend que c'est grave. Et il appelle les gendarmes. Les gendarmes débarquent, d'abord ceux de Rodez, puis ceux de Montpellier. Ils découvrent la scène de crime. Elles ont été tuées par balles, toutes les deux. Une pour Manuela et une pour la fille de Patrice Morgane. C'est une exécution. Mais en l'occurrence, ça n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est ce bébé qui a disparu. Il s'appelle comment, le petit? Il s'appelle Martin. Il a 5 semaines. Les experts arrivent, les fameux tics. Ils ratissent toute la maison. Ils cherchent un ADN, bien sûr. Rien. Pas une trace. Les gendarmes notent aussi qu'il n'y a pas de signe d'effraction, pas de porte fracturée, pas de fenêtre cassée. Et ça, c'est souvent le signe que la victime a ouvert à son assassin. Donc peut-être que Manuela connaissait son tueur, peut-être. Il a pu aussi trouver une ruse pour se faire ouvrir. Il n'y a pas non plus de traces de lutte. Dans la maison, tout est en ordre, aucun bijou n'a disparu. On retrouve le sac à main de Manuela, il y a de l'argent dans son porte-monnaie. Une grosse somme. Donc ça n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Ah si, il manque quelque chose. C'est Patrice qui le fait remarquer aux gendarmes.
Il y avait un sac de voyage ici. Il a disparu. Apparemment, c'est le seul objet qui manque.
Les voisins n'ont rien vu, rien entendu, même pas de coup de feu. En ce début d'enquête, les gendarmes n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Les gendarmes trouvent peu d'indices. L'arme du crime a disparu, aucune trace d'effraction. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont que les témoignages du père de famille, entendu longuement par le lieutenant-colonel Jerry Plane.
C'est un homme qui est extrêmement touché, extrêmement perturbé psychologiquement, et on le comprend. Trouver le corps de sa femme et de sa fille est quelque chose qui doit être terrible.
Qu'est-ce que l'on sait de cette famille qui venait juste de s'installer dans ce village ?
Pas du tout une famille connue pour des querelles ou des gens qui vivaient normalement. Actuellement, aucun des indices que nous avons ne peuvent nous permettre de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre dans cette affaire triste qui nous touche tous.
Pas de piste, mais en même temps, une urgence. Un bébé de 5 semaines a été enlevé. Mais pour l'instant, ça n'est pas l'enquête sur le meurtre de Manuela et Morgane, l'urgence. L'urgence, c'est Martin. À 5 semaines, il a besoin d'un biberon toutes les 3 heures. S'il est encore vivant, il faut le retrouver vite. Soixante gendarmes sont mobilisés. Une équipe cynophile, des plongeurs, un hélicoptère et même des gendarmes spéléologues venus tout droit d'Oloron, dans les Pyrénées. Tout ce monde-là ratisse le village dans tous les sens. On fouille la rivière, l'Aveyron, on assèche un puits, on retourne les poubelles, on va même jusqu'à la décharge de Rodez. Signe d'ailleurs qu'on ne croit pas vraiment que le petit soit encore vivant. Et au bout, rien, rien. Rien. Et là, qu'est-ce qui se passe, d'après vous? En l'absence de pistes, qui devient le premier suspect? Ne dites pas que vous n'y avez pas pensé. Le mari, pardi, le mari de Manuela, le père de Morgane et le père aussi du petit Martin. Il dit qu'il découvre les cadavres. Il fait peut-être du cinéma. On en a vu. Et donc les gendarmes commencent par se rencarder sur cette famille qui vient d'arriver à Flavin. Les gens du village que les gendarmes interrogent ne savent pas grand-chose sur eux en vérité. Ce ne sont pas des gens du coin. Ils ont l'air normaux. Voilà ce que disent les villageois. Ordinaire. Lui, Patrice, ils l'ont tous remarqué parce qu'il a une voiture de sport, rouge. Mais c'est pas une Ferrari, hein. C'est pas une Porsche. C'est un coupé Honda. La belle affaire. Patrice Moulinier est originaire de Dordogne. Il est frigoriste. Il répare et il entretient des chambres froides et des rayons frais dans les supermarchés. Son entreprise est basée à Rodez. Manuela est sa troisième femme. Il l'a épousée il y a 2 ans. Elle est d'origine espagnole. Et donc Patrice Moulinier est convoqué à la gendarmerie pour être auditionné. On ne parle pas de garde à vue. C'est juste une audition. Et voyez-vous, lui qui était paniqué sur la scène de crime. Là, il est calme, il est posé, il est un peu froid. Les gendarmes lui posent des questions, il répond méthodiquement, froidement, sans affect. Et là où ça se complique, c'est quand apparaissent des incohérences dans son emploi du temps.
Monsieur Moulinier, pouvez-vous nous détailler votre emploi du temps le lundi matin, 14 février s'il vous plaît?
Oui. Je suis parti de chez moi entre 7h50, 7h55, je dirais. Ensuite, je suis allé réparer une fuite sur un frigo. Et puis, je suis passé chez Leclerc.
Les gendarmes cherchent à vérifier. Il n'y a pas beaucoup de témoins des allées-venues de ce monsieur. Il y a un trou dans son emploi du temps. Un trou d'une heure et demie, juste avant qu'il ne découvre les corps, à 11h50. Donc là, on le place en garde à vue, à Rodez. Et ça change tout, hein. On lui enlève les lacets, on lui fait vider ses poches, on lui notifie ses droits. Ça n'est plus la même limonade. Ça va peut-être le débloquer. À voir. Pendant ce temps-là, autant vous dire qu'à Flavin, 2300 habitants, on est terrorisé. Une villageoise et une petite fille ont été assassinées. Un petit bébé de 5 semaines a été enlevé. Le père et Marie est en garde à vue. Flavin retient son souffle. Les gens restent terrés chez eux, d'autant que les gendarmes ont installé leur quartier général au milieu du village. Les gens regardent leur manège à travers les rideaux. Là-dessus tombe le rapport d'autopsie des corps de Morgane et Manuela. Manuela a reçu une balle de 22 longs rifles dans la nuque. À bout, touchant. Pas portant, touchant. Ça veut dire que le canon touche la nuque. Bam ! Une exécution. Quant à Morgane, c'est assez bouleversant. Elle a sans doute voulu se protéger, la pauvre. La balle traverse d'abord sa main, et puis sa tête. Même calibre, 22 longs rifles. C'est un double meurtre, de sang-froid.
Et l'heure de la mort, docteur ? Vous avez une idée ?
Oui, oui, je dirais entre 9h30 et 11h45.
Ça n'aide pas beaucoup. La fenêtre est très large, 2h15. Mais vous noterez qu'elle colle pile poil avec le trou dans l'emploi du temps du père et Marie. Alors lui, justement, qu'est-ce qu'il dit en garde à vue à la gendarmerie de Rodez ? Eh bien, pas grand-chose. Il dit qu'il n'y est pour rien. Les gendarmes qui ont un gros doute le poussent dans ses retranchements.
Ça ne peut être que vous, monsieur Moulinier. Alors il va falloir parler, hein ? Il va falloir nous le dire.
Mais il ne cède pas. Il n'est pour rien dans la mort de sa femme et de sa fille, pour rien dans la disparition de son bébé. Et pourtant, les gendarmes ne lui épargnent rien. Oui, il aime les femmes. Oui, il veut bien reconnaître qu'il a participé à des soirées coquines, à des partouzes. Et alors, ça n'en fait pas pour autant un assassin. Et donc, au lendemain de la découverte du double meurtre, un appel à témoins est lancé. La photo du petit bébé est diffusée dans les hôpitaux, dans les maternités, elle se retrouve à la une des journaux et le soir au journal de 20h. Si le petit Martin est vivant, on l'a forcément vu quelque part, dans une pharmacie pour acheter du lait premier âge, ou dans un supermarché, au rayon des couches, ou chez un pédiatre. Au lendemain de l'appel à témoins, les gendarmes reçoivent une bonne centaine d'appels, venus de toute la France, des gens qui croient l'avoir vu. Les vérifications demandent une énergie folle. Mais un bébé ressemble à un bébé. Et tous ces gens-là se trompent. Martin reste introuvable. Et pendant ce temps-là, à la gendarmerie de Rodez, la garde à vue de Patrice Moulinier se poursuit. Je vous l'ai dit, depuis le début, les gendarmes l'ont pas mal secoué, mais il maintient qu'il n'y est pour rien. Alors il change de stratégie.
Dites-moi, monsieur Moulinier, est-ce que par hasard, vous auriez des ennemis, ou des raisons de penser que quelqu'un vous en veut ?
Des ennemis, à proprement parler.
Je vois pas. Mais je peux vous donner le nom de fréquentation qui pourrait en avoir après moi, oui.
Enfin. Et donc il donne quelques noms de personnes avec qui il a pu être en conflit pour diverses raisons. Et parmi ces noms, un nom retient l'attention. Celui de Jean-Marie Von Matt, un de ses anciens voisins en Dordogne, un châtelain éleveur de chiens. Il dit que c'est ça qui les a rapprochés tous les deux. Patrice Moulinier aime les clébards. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur une foire aux animaux. Il est allé chez lui, dans son château. Ils sont devenus amis, voire très amis, tellement amis, que Patrice Moulinier raconte qu'un jour, Von Matt lui a offert sa femme, Simone. Oui monsieur, cadeau, servez-vous, ne vous gênez pas. Et donc ils se sont retrouvés à former un trouple, un ménage à trois. Bon, ce sont des mœurs bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Et tout ça remonte à il y a très longtemps, c'était il y a au moins 15 ans. et depuis, ils ne se sont jamais revus. Mais récemment, et c'est pour ça que Patrice Moulinier livre son nom aux gendarmes, Von Matt l'a appelé.
Et vous vous êtes dit quoi avec Monsieur Von Matt au cours de cet appel téléphonique? Eh bien, on s'est un peu raconté nos vies. Après autant de temps, Jean-Marie m'a appris qu'il vivait aux États-Unis depuis 3 ans. Et puis il m'a aussi appris la mort de Simone. Elle est décédée d'un AVC quelques semaines plus tôt. C'était pas gai de son côté, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, je lui ai raconté ma vie, à moi. Notamment le fait que j'étais marié depuis 2 ans et que je venais d'avoir un petit garçon, Martin. Avez-vous abordé d'autres sujets? Oui. Oui, à un moment, Von Matt s'est mis à parler d'un truc que j'ai pas bien compris, d'ailleurs. Il m'a parlé d'un pacte entre Simone et moi. Il m'a dit qu'il fallait que je libère son âme par rapport à une promesse que sa femme m'aurait faite.
Allons bon. Un serment ésotérique.
Et quel serment aviez-vous noué tous les deux?
Ben, rien de sérieux, hein, en vérité. On s'était promis de se retrouver après la mort.
Ouh là là! Ça bouillonne sous les calebasses. Ainsi donc, Jean-Marie Von Matt, châtelain et éleveur de chiens, appelle son vieil ami après 15 ans de silence pour lui demander de dégager une défunte d'un serment de la retrouver après la mort.
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu, Monsieur Moulinier?
Ben, je lui ai dit que je le ferais, puis c'est tout.
Quelle enquête! Quelle enquête unique! Je vous l'ai dit depuis le début, les gendarmes n'ont aucune piste. Donc, va pour ce Von Matt. Et en attendant, Patrice Moulinier est relâché. Ils ont fini par se convaincre que ça n'est pas lui. Ce qui complique un peu les choses, c'est que Von Matt habite à Miami, en Floride. Ça n'est pas la porte à côté. Ils sont sur le point de s'acheter un billet d'avion quand tombe un nouveau témoignage. Des collégiens de Flavin auraient vu une grosse berline noire, une BMW, circuler dans les rues de Flavin le matin du 14 février. Ils disent qu'elle avait des plaques étrangères. Et ils racontent qu'ils étaient à un arrêt de bus et que le conducteur s'est arrêté. Et qu'il leur a demandé, avec un accent étranger,
« Vous pourriez me dire où se trouve la rue Saint-Pierre, s'il vous plaît ?»
La rue Saint-Pierre, c'est précisément la rue des Mouliniers. Intéressant ! Est-ce qu'il pourrait s'agir de Jean-Marie Von Matt ? That's the question. Ça n'est pas difficile à vérifier. À travers l'Association internationale du transport aérien, toutes les compagnies aériennes de la planète tiennent un fichier de tous les gens qui prennent l'avion. Alors voyons, Jean-Marie Von Matt a-t-il pris récemment un avion pour la France? Et donc les gendarmes tapotent sur leur ordinateur. Jean-Marie Von Matt, qui habite à Miami, aux États-Unis, est-il venu récemment en France? Eh bien oui, Von Matt a pris un vol Miami-Zurich en Suisse le 12 février, c'est-à-dire 2 jours avant les meurtres. C'est lui! Et pour venir de Zurich jusqu'à Flavin, dans l'Aveyron, 850 kilomètres tout de même, logiquement il a dû louer une voiture. Les gendarmes font le tour des loueurs de voitures de Zurich. Hé hé! Il a bien loué une voiture à sa descente de l'avion. Mais pas une BMW. Les collégiens avaient mal vu, c'est une Opel Vectra, noire. Incroyable rebondissement. On aurait donc affaire à un type qui vient 15 ans après tuer une femme et une petite fille, et sans doute un bébé, plus personne ne croit que le petit Martin soit vivant, pour régler une histoire de promesses ésotériques. Quelle enquête ! Alors, avant d'aller le pincer, là où il est, pour l'instant on ne sait pas, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur ce Jean-Marie Von Matt? À la base, il est mécanicien, mais il aurait fait fortune en Suisse, dans l'immobilier, comme marchand de biens. Après quoi, il aurait eu des problèmes avec le fisc helvète et il aurait été expulsé de Suisse en 1981. C'est là qu'il achète le château de Campagnac, en Dordogne, où il s'installe avec sa femme Simone et leurs 3 enfants. D'après ce que les gendarmes apprennent, il s'intègre mal à Saint-Pardoux, le village où se trouve le château. Les villageois le trouvent hautain, arrogant, m'as-tu vu ? Si bien qu'il vit reclus dans son parc de 20 hectares, allant même jusqu'à scolariser ses 3 enfants au château. Un misanthrope, quoi. Et maintenant, il n'y a plus aucun doute sur le fait que c'est lui qui a tué. Il a rendu sa voiture chez le loueur de Zurich. Et dans la voiture, sur la moquette, côté passager, on retrouve une balle de 22 longs rifles, même calibre que celui du double meurtre. Et on trouve aussi des traces de sang sous le tableau de bord, côté passager encore. La balle et les prélèvements de sang filent au labo. La balle a été tirée par la même arme que celle du double meurtre. Et le sang c'est celui du petit Martin. Il l'a donc tué lui aussi, d'une balle de 22 longs rifles, dans la voiture de location. Alors où est-il, ce Jean-Marie Von Matt? Il atterrit à Zurich le 12 février. Il passe la nuit du 12 au 13 dans un hôtel près de l'aéroport. Le 13, il prend possession de sa voiture de location. Il roule en direction de Flavin, 850 km, toute la journée du 13. On retrouve sa trace le 13 au soir dans un hôtel première classe de la périphérie de Rodez, préfecture de l'Aveyron. Une chambre à 169 francs, que d'ailleurs il n'a pas réservé à son nom, mais au nom de sa femme décédée, Leitner. Et le lendemain, il prend la route de Flavin. Si on regarde le compteur de sa voiture de location, il y a un petit problème, cependant. Il aurait parcouru, au total, 2000 km. Or, un aller-retour Zurich-Flavin va chercher dans les 850 km aller, 850 km retour. 850 plus 850, ça fait 1700. Il manque 300 km. Où a-t-il pu aller? Quel détour a-t-il emprunté? Par déduction, les gendarmes se disent qu'il a pu passer par son ancien château de Campagnac, à Saint-Pardoux. En termes de kilométrage, ça colle. Et pourquoi serait-il allé au château? Eh bien, peut-être pour se débarrasser du cadavre du petit Martin. Quinze jours après le double meurtre, 12 gendarmes débarquent donc au château de Campagnac, en Dordogne. La tâche est colossale. Le château compte plus de 80 pièces et autour, il y a 21 hectares de terre. Heureusement, quand ils arrivent, ils tombent sur le jardinier, le même qui officiait déjà au château du temps de Von Matt.
Vous vous souvenez d'un endroit dans le parc que M. Von Matt affectionnait particulièrement?
Oui, oui. Je vais vous emmener.
Et le jardinier les conduit à un endroit où ils tombent sur un tas de pierres, avec une sorte de cavité, comme un four. Et dans ce four, des cendres. Et dans les cendres, une balle de 22 longs rifles. Et des boucles qui pourraient provenir du sac de voyage volé chez les mouliniers. Il a tué le bébé, il l'a mis dans le sac et il l'a brûlé là. Et ce qui est étrange, ce sont ces petits granulés blancs au milieu des cendres. On les fait analyser. C'est du sel. Et là, on retombe dans l'ésotérisme. Le sel est couramment utilisé en sorcellerie pour ses vertus purificatrices. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Et lui alors? Où est-il? D'après les fichiers aériens, il a repris un avion pour Miami 3 jours après le meurtre, le 17 février. À Miami, il est propriétaire de plusieurs appartements, mais il semble qu'il habite sur Lincoln Street, à Miami Beach. Et donc les gendarmes français prennent contact avec la justice américaine en vue de son interpellation. Et en attendant, il place sa famille, en France, sur écoute. Il vit essentiellement en Alsace. Et c'est par les écoutes qu'ils apprennent que Jean-Marie Von Matt est mort. Il s'est suicidé récemment dans son appartement de Miami. Fin de l'enquête ? Mais les gendarmes français vont quand même à Miami. Et ils débarquent chez Von Matt. Et ils découvrent une scène incroyable. L'appartement est un mausolée entièrement consacré à l'adoration de Simone, sa femme. Il y a des photos d'elle sur tous les murs. Des photos de leur mariage, des photos d'elle sur son lit d'hôpital après son AVC et même des photos d'elle sur son lit de mort. Avec des petits mots accrochés au milieu. Simone, rejoins-moi. Simone, tu m'appartiens. Simone, ton esprit doit revenir avec moi. Simone, libère-moi. Les miroirs sont recouverts de draps blancs. La scène est à rapprocher du gros sel dans les cendres de Martin, du fameux pacte qui promettait de se retrouver après la mort. On est en pleine folie mystique. Est-ce que Von Matt a considéré que sa chère Simone s'était réincarnée dans le petit Martin? Est-ce que c'est pour ça qu'il les a tués tous les trois? On n'en saura jamais rien. L'enquête s'arrête là. Et le pauvre Patrice Moulinier, qui a tout perdu dans cette affaire, sa femme, sa fille, son fils, n'aura jamais la clé de leur massacre. Incroyable histoire, vraiment unique. J'ai pas raconté beaucoup d'histoires de ce tonneau-là dans ma carrière. Et je suppose que vous aussi, colonel Jerry Plane, qui avez été le chef d'enquête de cette affaire, vous n'avez pas croisé beaucoup d'histoires de ce type-là dans votre carrière. Hein.
Oui, elle a été très marquante dans ma carrière. Elle a été marquante aussi pour la gendarmerie, puisqu'elle a, c'est une affaire qui a servi de sujet pour les étudiants en police judiciaire,
ouais.
Pour leur formation. Donc c'est dire, comme vous l'avez expliqué, comme vous avez raconté l'histoire, ça a l'air de découler tout naturellement.
Oui,
mais dans les faits,
oui.
Ça a duré 5 semaines.
Oui, ça va vite.
Ça va vite, mais ça avait été beaucoup de travail et ça n'avait pas été très simple. Beaucoup de réponses qu'on a obtenues dans l'enquête ont été longues à venir. Hmm. On était en 2000. L'ADN, il fallait plusieurs jours pour sortir une comparaison.
Aujourd'hui encore, on
aujourd'hui, c'est dans l'heure, oui, ou presque, qu'on le oui. fait.
Il faut aller tordre.
Donc c'était autre chose. Les écoutes téléphoniques,
le
ça a plusieurs jours également. Et on avait fait des recherches plus loin, mais c'était très compliqué.
J'imagine évidemment qu'il y a une grosse frustration de ne pas pouvoir d'abord interroger Von Matt et ensuite le déférer au parquet et puis le voir juger.
Absolument, oui. Alors c'est une frustration pour nous parce que on ne reçoit pas, on ne voit pas l'aveu. On l'a été par la suite, mais on n'est pas complètement certain que c'est lui. Il y a toujours un petit doute qui est dans notre esprit d'enquêteur. Et puis, mais surtout pour la famille, c'est un doute.
Ouais.
Parce que le deuil est difficile quand on n'a pas une vérité qui colle avec tous les éléments. Il y a beaucoup d'éléments, il n'aurait pas pu se sortir de cette affaire, Von Matt, s'il avait été vivant. Il y avait beaucoup trop de choses contre lui, beaucoup de preuves qui avaient été apportées, donc il n'aurait pas pu s'en sortir. Mais ce n'est pas suffisant, je pense que pour les familles c'est assez terrible. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de procès qu'on trouve la victime décédée que l'action publique s'arrête. L'enquête continue, elle a duré près d'un an encore l'enquête, toujours sous l'autorité du juge d'instruction. Et notamment, il faut savoir qu'on a mis 6 mois à prouver que c'est bien le corps de Martin qui avait été brûlé dans la propriété en Dordogne.
Oui.
Et parce que bah, c'était tellement carbonisé que les équipes spécialisées, plusieurs laboratoires ont cherché pour rapprocher l'ADN de celui de Martin. Que nous possédions son ADN à lui, ce qui était une chance.
Une hypothèse tout de même, il n'aurait peut-être pas été jugé car il était fou. Cet homme était fou.
Il était fou, mais il avait quand même une vie. Alors, c'était un homme très colérique, très autoritaire, mais il avait quand même une vie très ordonnée.
Très cohérente.
Il était dangereux. Il avait déjà tiré sur ses voisins quand il était. Parce que ses voisins pénétraient dans sa propriété. Il se disputait un petit peu avec tout le monde, c'est vrai. C'était un type acariâtre, vraiment très, très difficile à vivre. D'ailleurs, il n'avait pas d'amis. On lui a pas connu d'amis.
Et une hypothèse de pathologie mentale recoupe la scène de crime parce que il les a tués, Manuela et Morgane, et le bébé sans doute aussi, de sang-froid.
Oui. Donc d'assez près, en fait.
Oui.
Oui, c'est assez terrible de se dire ça, cette froideur dans le geste criminel. Aucune émotion. Il prend un sac, il met l'enfant dedans, il s'en va. C'est terrible. La scène était très difficile à voir. Bon, effectivement, il y avait du sang, mais c'est pas que ça. C'est la position des victimes, proches l'une de l'autre. Ce berceau qui était vide.
Ouais.
C'était très touchant.
Alors je veux qu'on revienne au moment où vous soupçonnez le père. Je vous l'ai dit, on ne peut pas vous le reprocher, puisque ça vient assez naturellement à notre esprit aussi, lorsqu'on entre dans cette histoire. Son comportement au cours de la première audition est vraiment suspect, n'est-ce pas ?
Oui, il est étonnant. Il est étonnant déjà son comportement, depuis le début. Moi, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé, on lui a dit, c'est le colonel qui arrive. Et il est venu, il m'a fait visiter les lieux. Comme si je voulais acheter la maison, quoi, ou presque D'accord. comme ça. Quoi. Mmh. Et il était prêt à rendre service, il participait aux fouilles, etc. Alors que, en général, dans ce genre de situation, les gens sont au minimum éplorés et mmh. une grande tristesse. Et lui, pas du tout. C'est comme s'il avait surmonté, mais en fait...
Avec du recul, comment vous expliquez son attitude, puisque ça n'était pas lui?
Il se trouve que certaines personnes sont comme ça. Et devant un tel choc, ils ont l'impression d'assumer, ou peut-être sans doute ils ne voient pas la profondeur de ce qui leur arrive. Quoi. Mmh. Il y a quelque chose qui se passe, ils effacent peut-être cette vision de la femme, de l'enfant, et ils se comportent comme si on venait de leur voler leur portefeuille, quoi, ou c'est presque ça.
Ils se raccrochent à une sorte de rationalité, au concret.
C'est ça, ouais. Ouais.
Comment ils fêtent la maison, comment sont passées les choses.
Et puis on a vu aussi qu'il avait confiance en nous. Il voulait nous parler, nous expliquer tout ce qu'il faisait, nous emmener aux endroits dangereux du jardin, le puits, la petite cabane au fond du jardin. Mmh. Mais c'est vrai que c'était un peu étrange, parce que c'est quand même assez rare de voir des gens comme ça. Ouais.
Alors, y a un moment donc où vous l'interrogez, puis ce moment où il est en garde à vue, il nie. Bon, il y a un moment qui est limite, que peut-être vous ne pourriez plus jouer aujourd'hui avec la présence de l'avocat pendant la garde à vue, c'est ce moment où vous lui dites « on est convaincu que c'est vous ». On en a fait avouer des innocents avec des questions comme ça.
Oui, mais on lui a jamais dit ça comme ça. Plusieurs enquêteurs l'ont entendu et jamais on lui a présenté les choses comme ça. Ce qu'on lui a présenté au bout d'un moment, c'est ce qui collait pas dans son emploi du temps, justement, comme vous l'avez dit. Effectivement, il avait perdu 45 minutes, une heure, où on ne savait pas où il était.
Et personne ne pouvait attester qu'il était là où il disait.
Personne ne pouvait attester. Mmh. Et il se trouve que, pour je sais quelle raison, son téléphone n'était pas connecté à un relais à ce moment-là. Mmh. Donc, soit il l'avait arrêté, soit il voulait pas être peut-être parce qu'il voulait pas être dérangé. Enfin, il y avait une période, là, il voulait pas en parler, il voulait pas nous dire, mais nous, on avait le téléphone qui nous parlait.
Avec du recul, dans les cas de mort d'épouse et d'enfant, à un moment donné, on incrimine forcément ou les parents ou le mari, c'est dans la logique de beaucoup d'enquêtes, mais avec du recul, vous vous dites, on a placé ce type en garde à vue, il avait perdu sa femme, son bébé était dans la nature, sa fille était morte, c'est une expérience très douloureuse pour lui.
Oui, c'est douloureux, et ne croyez pas que ce soit facile à faire, pour nous, je veux dire. Mais je crois qu'il a bien compris ça, parce que lui, il savait qu'il nous cachait quelque chose, un petit moment dont il ne voulait pas qu'on parle, qu'il n'y avait rien de répréhensible au plan judiciaire.
Qui était quoi? Qu'il avait couchaillé de ci, de là?
Oui, enfin, donc, disons qu'il avait passé un peu de temps avec une personne qui n'était pas son épouse.
Ce jour-là. Ah, ouais. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un trou dans son emploi
du temps. C'est pour ça qu'il y a un trou dans son emploi du temps, oui.
D'accord.
Bon, derrière, il y a une famille, il y a des gens qui écoutent, etc., donc ils ne voulaient pas en parler, quoi. Mais nous, on avait, non pas des preuves, mais des éléments d'interrogation.
Ouais. Alors, il vous donne plusieurs noms de personnes qui pourraient lui en vouloir, et il vous donne assez vite le nom de Von Matt, et évidemment vous vous arrêtez sur ce nom-là à cause de ce serment ésotérique, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est intéressant.
Oui, on a vérifié pour toutes les personnes, là, on a des équipes qui sont allées partout où ces personnes habitent, etc., on a vérifié sur tous les... pour toutes les personnes...
Qu'il a citées.
Et à distance, enfin toutes les personnes qu'il a citées. Mmh. Von Matt, c'était intéressant à cause du personnage qu'il nous décrivait de Von Matt, de l'étrangeté de son appel, alors qu'ils ne s'étaient pas rencontrés depuis au moins 3 ans, quelques jours après le décès de son épouse.
Oui.
Et tout de suite, il y a un enquêteur qui a dit « Mais c'est curieux parce que son épouse est décédée pratiquement au moment où est né Martin. » Ça m'est resté dans la tête, ainsi qu'avec le directeur d'enquête. Mais c'est vrai, c'était une chose un peu étrange.
C'est-à-dire que tout de
suite, ça nous a attiré vers lui.
Oui, vous avez... émis cette hypothèse dans votre esprit que peut-être lui allait faire un lien entre la naissance de Martin et la mort de sa femme.
Pas encore, on a juste observé que c'était concomitant, ou presque concomitant. Mais c'est quelque chose qu'on a gardé à l'esprit quand même.
Ce triple meurtre intervient le jour de la Saint-Valentin.
Ouais.
Je disais au début de l'histoire que c'était totalement le hasard. Et à ce moment-là, j'ai vu votre sourcil se relever en disant « peut-être pas tout à fait ».
Ouais. Dans cet esprit un peu mythomane, mystique, il avait un tel amour pour sa femme, tout le monde le disait et le voyait, il montrait un tel amour pour sa femme. Alors, je ne vais pas faire des hypothèses, vous avez déjà abordé un petit peu cette théorie qui voudrait que cet enfant se soit réincarné.
Oui, que sa femme se soit réincarné dans Martin.
Bon, il se trouve que quand il était à Miami, peu de temps après, après sa femme, il entendait des voix de sa femme. Non, il n'entendait pas des voix, il sentait sa main être guidée par les mots de sa femme. Donc il écrivait sur des documents, ce que lui disait sa femme. Alors c'était des mots d'amour, une sorte d'appel au suicide, là. Sur une fenêtre de l'appartement, il y avait un A4, comme ça, où il était écrit en gros « Oui, tu peux me rejoindre par là ». Quand on sait qu'il habitait au 7e étage, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
D'accord.
Quoi, Moi, je me demande vraiment s'il n'avait pas cru en la réincarnation de sa femme en Martin. Et que le 14 février, c'est vrai que c'est la fête des amoureux, et il fait un geste pour sa femme ce jour-là.
D'accord.
C'est d'imagination, c'est une théorie.
Oui.
Mais c'est un personnage très très mythomane et assez étrange quand même.
Vous êtes allé, vous, à Miami, dans cet appartement ?
Non, je ne suis pas allé, ce sont des enquêteurs qui sont allés.
C'était indispensable d'y aller ?
Alors, c'était indispensable parce qu'il fallait voir cet appartement, ça nous a quand même apporté beaucoup de choses, hein, au plan de l'éventuelle pathologie. Oui.
Psychiatrique ?
L'ambiance, psychiatrique, oui.
Ça ressemble à l'appartement d'un schizophrène, entre nous. En revanche, là, pour le coup, moi, je connais plusieurs affaires criminelles où chez des schizophrènes, notamment paranoïdes, on trouve comme ça des lieux qui sont des mausolées dans lesquels ils vivent leur deuxième vie.
Ouais.
Leur vie fantasmatique.
Ouais,
qu'il entendait des voix, par ailleurs.
Oui, il entendait des voix où sa main était guidée par les mots de sa femme. Bon, on ne sait pas trop comment le dire, mais c'était très, très, très particulier. Et dans cet appartement, on voit l'amour qu'il avait pour sa femme. Encore une fois. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est le 14 février, et 2000 en plus.
Oui.
Bon, 2000, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une année particulière quand même dans la vie des gens, l'année 2000.
Comment ça se passe, une enquête qui donc, me dites-vous, se poursuit pendant des mois et des mois après la mort du suspect ? C'est, en fait, c'est une enquête pour l'honneur de la gendarmerie et de la justice française ?
Non, c'est pas pour l'honneur. C'est une enquête parce que on veut pas qu'un criminel nous échappe. Donc on est obligé de vérifier, revérifier,
que c'est bien lui.
Chercher les preuves et s'assurer que c'est bien lui. Alors bien sûr, il n'y a pas de condamnation possible, il n'y a pas de procès possible. Encore qu'on pourrait l'imaginer qu'il y a un procès en son absence. Mais bon, c'est pas en France, c'est pas comme ça, et dans les pays occidentaux, c'est nulle part comme ça. Mais c'est quand même très important de s'assurer qu'il est bien le seul à avoir agi dans cet acte criminel, qu'il n'avait pas de complice, puis même. La certitude, il faut chercher des preuves. Alors, on a mis par exemple 6 mois pour identifier de l'ADN de Martin dans les cendres qu'on a découvertes dans ce lieu. Vous ne l'aviez pas dit, mais il est très particulier ce lieu. Il n'y a pas vraiment un four, mais il y a un creux. Et puis c'est un lieu un peu druidique, si vous voulez. C'est des pierres en rond, etc. Ça aussi, ça contribue. Il y a un côté mystique, c'est ça.
On peut imaginer que par le passé, à cet endroit-là, il ait déjà fait des choses, fait des cérémonies.
Oui. On n'a pas su ça.
Mais les pierres n'étaient pas alignées au hasard.
Mais c'est pas lui qui l'a fait comme ça. Hein. C'est ancestral. C'est un truc qui date d'avant le château, sans doute. C'était vraiment ça. C'était vraiment un endroit.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre comme acte d'investigation alors pendant ces
mois ? Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que on imaginait que Martin était mort parce que, comme vous l'avez dit, dans la voiture louée par Von Matt, on avait retrouvé une balle de 22 souillée de sang. Et sang qui correspondait parfaitement à l'ADN de Martin. Mais voilà, on n'en savait pas plus que ça. Donc il a été important de chercher dans ses cendres pour s'assurer que Martin était bien mort et que son corps avait été carbonisé. Et on a mis 6 mois, parce que dans des matières humaines carbonisées, c'est extrêmement difficile de faire ressortir
en
de
2000,
l'ADN.
Qui plus est.
Et c'était en 2000, où depuis on a fait le grand progrès. C'était il y a 18 ans. Donc pour beaucoup de choses, il faut placer dans le contexte. Même pour la téléphonie, c'était pas simple du tout. Et c'était très cher d'obtenir ces informations. Ouais. Bon, maintenant tout ça est cadré, réglementé, etc. Donc ça va beaucoup plus vite.
Est-ce qu'il y a un moment, à la fin de cette enquête, qui donc ne débouche sur aucun procès, où néanmoins vous convoquez le père pour lui donner le résultat de vos investigations?
Ouais, c'est pas nous qui le faisons, c'est le juge d'instruction.
Mais il le fait.
Mais il le fait, bien sûr, Le père et toutes les personnes de la famille intéressées. Je crois qu'il avait également convoqué la famille espagnole de Manuela. Donc toutes les personnes intéressées, en général, il les convoque, il leur parle.
Ouais. Ouais, c'est important de le dire.
Mais c'est important, oui, parce que ces gens ont leur deuil à faire et... Il était très perturbé, Moulinier. Il a été malade après. Il a été autant il était froid et quasiment indifférent dans les premiers temps de l'enquête. Après, il a été très secoué.
On veut bien le croire. Ouais. Merci beaucoup, Géry Plane,
vous en prie,
d'être sorti de votre retraite pour nous faire revivre cette enquête qui sans doute a marqué votre fin de carrière.
Ouais, a beaucoup marqué ma carrière. C'était pas ma fin de carrière, mais, ah oui. Mais c'est une enquête très marquante. D'ailleurs, je m'en souviens clairement 18 ans après. Oui. C'est dire que...
Ce qui est assez rare.
Ouais, ce qui est assez rare.
Pour avoir interrogé pas mal d'officiers de police.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.